Le journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, un déluge sans fin sur le Texas. Le pays du pétrole est sous l'eau. Les dégâts devraient se chiffrer en dizaines de milliards de dollars. Donald Trump attendu sur place au chevet des sinistrés de la tempête Harvey. Un missile au-dessus des têtes. Nouvelle provocation de la Corée du Nord cette nuit. Le régime a tiré un missile au-dessus du Japon. Réunion d'urgence ce soir à l'ONU. Tenez bon, c'est le message du jour lancé à Emmanuel Macron par le patron du MEDEF, Pierre Gattaz. Il redoute que le gouvernement ne flanche dans la dernière ligne droite avant la présentation de la loi travail. À 8h20, votre invité Nicolas, il a été Premier ministre de François Hollande. Il est seul aujourd'hui, c'est Manuel Valls.
Oui, seul et même très seul, Manuel Valls dans quelques instants et qui répondra à toutes vos questions à 8h40, 01 45 24 7000, le Facebook Live de France Inter et sur Twitter avec le mot-clé le 79 Inter.
Dans ce journal également, l'Allemagne face au pire tueur en série de son histoire, l'homme aurait commis au moins 80 crimes. La rentrée des élèves, lundi prochain dans certains collèges, on préfère anticiper pour moins les stresser. Des certificats médicaux, plus difficiles à obtenir si vous pratiquez certains sports. Et puis le retour gagnant de l'ex-dopée du tennis féminin, Maria Sharapova a balayé la numéro 2 mondiale cette nuit à l'US Open. Trois jours de déluge et ce n'est toujours pas fini. La ville de Houston au Texas n'est plus qu'un archipel ce matin. Des quartiers entiers sous les eaux, des milliers de sinistrés et la garde républicaine qui patrouille en bateau pour éviter les pillages. Écoutez le témoignage de Jason, pris au piège lui aussi par la montée des eaux.
Quand je me suis réveillé ce matin, j'avais cette sensation difficile à décrire, cette drôle de sensation que tout ça n'est pas réel. Je n'ai jamais vu ce que je vois là, je ne l'ai jamais vécu. Hier, j'ai traversé une route avec de l'eau au milieu de la poitrine pendant plus d'un mile. Je ne sais pas si à ce moment-là, j'avais vraiment peur, même si j'avoue que j'ai pensé aux alligators. Il y a des gens qui disent qu'il y a des alligators dans les rues de Houston. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que des gens ont vu des serpents dans l'eau. Moi, j'ai vu des poissons, ce qui est hallucinant, c'est totalement différent de ce que j'ai vu jusqu'ici. Ça n'arrive jamais de marcher dans la rue et de voir des poissons nager.
Et c'est dans ce décor surnaturel que Donald Trump se rendra aujourd'hui au chevet des sinistrés, accompagné par son épouse. Impossible pour lui de se poser à Houston, les aéroports sont fermés. Le président américain se rendra un peu plus à l'ouest pour un message d'unité. Mais ce déplacement, Philippe Randé, est aussi un test politique pour lui.
Ne pas reproduire l'erreur de Katrina lorsqu'en 2005, le président Bush avait survolé la Nouvelle-Orléans sans prendre la peine de s'arrêter voir les sinistrés. Donald Trump a fait de ce terrible ouragan Harvey un test. Photo en réunion d'urgence dans le bureau ovale, suivi en temps réel des inondations. Il a même, et c'est rare, abandonné ses tweets provocateurs. Hier en conférence de presse, il l'a dit. Nous sommes une famille. Le 45e président des États-Unis voit avec cette première catastrophe naturelle de son mandat l'occasion de réunir ses troupes et de se poser en leader rassembleur. Très vivement critiqué après ses propos sur Charlottesville, il va devoir travailler dans les prochains jours avec le Congrès pour débloquer les fonds nécessaires pour la reconstruction. Pas sûr cependant que cette unité de façade tienne très longtemps. Dès aujourd'hui, la polémique ADN de la présidence Trump, la polémique pourrait ressurgir, car beaucoup d'habitants ici font le lien entre l'ouragan et le réchauffement climatique. Et ils espèrent bien que le président des États-Unis sera questionné sur sa décision il y a 3 mois de sortir de l'accord de Paris. Houston, Philippe Randé, France Inter.
La tempête Harvey qui fait quasiment du surplace, ce qui explique la quantité d'eau tombée depuis samedi, l'équivalent d'un an de pluie. Le pic des inondations est attendu pour demain ou après-demain. 6 nouveaux morts seraient à déplorer, ce qui porterait le bilan à 9 victimes. Quant aux conséquences économiques, elles seront énormes. 20 à 30 milliards de dollars, estiment déjà les assureurs. La production de pétrole aux États-Unis est réduite d'un quart. Une centaine de plateformes situées dans le golfe du Mexique ont dû être évacuées. Et l'on redoute désormais la suite, car les pluies devraient ensuite toucher la Louisiane, placée à son tour en état d'urgence.
8h04, l'autre image de la nuit à l'étranger. Marc, c'est un missile dans le ciel japonais.
Abritez-vous, tout le pays s'est mis en alerte pendant quelques minutes quand les radars ont signalé la présence d'un missile au-dessus de l'île japonaise d'Hokkaido. Il l'a survolé avant de terminer sa course 1 millier de kilomètres plus loin dans les eaux du Pacifique. Nouvelle provocation signée de la Corée du Nord, plus inquiétante peut-être que les précédentes à Tokyo. Frédéric Charles.
Le gouvernement japonais a enclenché son système d'alerte J lorsque le missile balistique nord-coréen de moyenne portée a survolé son territoire. Des messages préenregistrés ont interrompu les émissions de radio et de télévision pour signaler sa présence dans le ciel japonais. Les trains à grande vitesse ont interrompu leur service. Des avertissements ont été adressés par haut-parleurs dans les villes et villages de l'île d'Hokkaido, tout au nord de l'archipel, se trouvant sur la trajectoire du missile. L'engin a explosé en 3 morceaux à 1 000 000 de kilomètres à l'extrémité sud-est de l'île d'Hokkaido. Selon la chaîne de télévision NHK, l'armée japonaise n'a pas cherché à détruire le missile après l'avoir détecté. Le gouvernement japonais avait pourtant laissé entendre qu'il n'hésiterait pas à le faire en cas de survol de son territoire. Le Japon et les États-Unis disposent au large de la péninsule coréenne d'un système de défense antimissile au sol et en mer couvrant leur territoire. Tokyo, Frédéric Charles, RFI pour France Inter.
Colère de Tokyo mais aussi de Washington qui, dans la foulée, ont annoncé une réunion d'urgence ce soir à l'ONU. Le Conseil de sécurité pourrait adopter une nouvelle série de sanctions contre le régime. La menace nord-coréenne, la lutte contre le terrorisme, il en sera question ce matin à l'Élysée où Emmanuel Macron donne sa feuille de route aux 170 ambassadeurs de France. Il annoncera notamment l'ouverture de nouvelles négociations sur la Syrie. Bernard Guetta y revient juste après ce journal.
8h06, il se met la mort à l'hôpital. L'Allemagne découvre avec effroi le parcours du plus grand tueur en série de son histoire.
Un infirmier déjà condamné pour 6 meurtres et qui aurait en réalité tué au moins 90 patients, peut-être même le double. Il opérait dans des hôpitaux du nord du pays en injectant des médicaments à dose mortelle à des patients. Personne ne l'avait repéré. Ce sont ses propres confidences faites à un co-détenu il y a 3 ans qui ont relancé l'enquête. À Berlin, Pascal Thibault.
Cela dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer, reconnaît le chef de la police de Oldenburg. Les résultats de l'enquête de longue haleine laissent les experts pantois. Nils Högel, déjà condamné à la prison à vie pour les meurtres de 6 patients, a en fait tué au moins 90 personnes dans 2 hôpitaux du nord de l'Allemagne. Un bilan sans doute bien plus élevé. À Delmenhorst, 130 patients morts alors que Nils Högel travaillait à l'hôpital ont été incinérés. Il ne sera jamais possible de savoir si l'infirmier leur a également ou non fait des piqûres conduisant notamment à des arrêts cardiaques. L'homme a affirmé lors d'interrogatoires avoir voulu, en tentant ensuite de réanimer ses victimes, briller auprès de ses collègues et cultiver son ego. Mais des dizaines de personnes n'ont pas survécu. Les morts auraient pu être évitées, a estimé hier le patron de la police d'Oldenburg. Des statistiques dont disposait la hiérarchie montraient que les décès de patients étaient sensiblement plus élevés lorsque Nils Högel travaillait. Mais aucune enquête interne n'a été menée. Des procédures ont été engagées contre 3 responsables de l'un des 2 hôpitaux concernés. Berlin, Pascal Thibault, RFI pour France Inter.
Plus aucune trace d'elle depuis plus de 2 jours maintenant. C'est bien la piste d'un enlèvement qui domine après la disparition de la petite Maëlys, 9 ans en Isère. Elle a disparu lors d'une fête de mariage. Les recherches menées par 100 de gendarmes assistés d'un hélicoptère n'ont rien donné. Une enquête a été ouverte pour enlèvement.
Surtout ne pas braquer des syndicats.
Emmanuel Macron ne se rendra pas à l'université d'été du MEDEF qui s'ouvre aujourd'hui à Jouy-en-Josas dans les Yvelines, pas plus d'ailleurs que son premier ministre Édouard Philippe. Pas question de s'afficher trop ouvertement avec le patronat à 2 jours de la publication des ordonnances sur la réforme du code du travail. En revanche, 12 ministres feront le déplacement. Quant au patron du MEDEF, Pierre Gattaz, il donne le ton ce matin. Ce n'est pas le moment de flancher, lance-t-il au chef de l'État.
Cette loi travail, il ne faut pas louper cette opportunité, c'est maintenant. Emmanuel Macron l'a annoncé dans tous ses discours, des centaines de fois depuis un an, il a confirmé entre les 2 tours des législatives, ce qui est important, ce qui est un risque, et il a une majorité importante de son parti. Personne n'est pris par surprise. Il a été élu pour faire ça. Le monde l'attend sur ce sujet. Les acteurs économiques que nous sommes l'attendent. C'est une des conditions pour garder la confiance des chefs d'entreprise. Il y a des haies à sauter. Il y a un mur à franchir. Eh bien, à chaque fois, il y a eu refus d'obstacles depuis 5, 10, 15, 20 ans sur ce sujet. Maintenant, on attend que le cheval France saute la haie. C'est vraiment important.
Pierre Gattaz, tout en métaphore, interrogé par Célia Kiret. L'économie encore, version fiche de paye. Les salaires ont augmenté de 2,1% cette année en France en moyenne. D'après le cabinet Deloitte. Pour les cadres, c'est même 2,5%. Le cabinet a épluché près de 900 000 fiches de paye pour obtenir ce résultat. En mai dernier, elle obtenait plus de 10 millions de voix sur son nom. Mais depuis, elle brille par ses silences. Où est passée Marine Le Pen? La finaliste de la présidentielle a passé un été plutôt discret, à l'exception de quelques tweets. Elle ne fera sa rentrée que dans 10 jours, bien après tous les leaders des oppositions. Nouveau signe, sans doute, de la fébrilité qui gagne en ce moment son parti, Aurélien Colli.
Marine Le Pen est en vacances, elle se repose et c'est bien normal. Explication cinglante d'un cadre frontiste qui annonce son retour à Paris cette semaine, reposée et sereine pour préparer sa rentrée. Ce sera dans une dizaine de jours à Braché en Haute-Marne, comme tous les ans, avec un discours offensif, nous dit-on, histoire d'incarner l'opposition, maintenant que l'état de grâce de Macron est terminé. Cela ressemble un peu à la méthode Coué, car le FN est toujours groggy. En juillet, son séminaire de la refondation n'a pas réglé les tensions entre les différentes lignes. Florian Philippot cristallise encore l'hostilité d'une majorité de cadres, mais reste le bras droit de Marine Le Pen, même si quelque chose s'est brisé entre eux, confie un proche. Quant à la légitimité de la patronne du FN, elle est aussi attaquée, dans la presse par Robert Ménard et au sein du parti par des militants discrets, mais qui la considèrent néanmoins comme grillée et sans succession depuis le départ de Marion Maréchal Le Pen. Conclusion d'un cadre, elle doit gérer le débat interne sans pugilat, tout en existant comme opposition avec une poignée de députés. Ce n'est pas gagné et ça donne peu envie de rentrer.
Aurélien Colli du service politique de France Inter.
France Inter, 8h11, dans 6 jours, à 7h06. Les pauvres, ils auront sans doute une petite boule au ventre.
Et oui, comment éviter le stress lundi prochain pour la rentrée scolaire, surtout quand on rentre chez les grands au collège? Eh bien, il suffit parfois de se familiariser avec les règles, les lieux, les profs. C'est ce que proposent certains établissements, comme à Valence, dans la Drôme, où les futurs 6e du collège Paul Valéry ont fait leur rentrée dès hier. Tant pis si les vacances ont été un peu raccourcies. Reportage Solène Cressant.
Les doigts sont déjà levés bien haut dans la salle de classe. Les futurs 6e ont plein de questions à poser aux professeurs et éducateurs.
Par exemple, si un élève qui sort son portable en cours de français, qu'est-ce qui lui arrive?
Ta question, elle est très bien. Tous les cours que vous avez, c'est interdit.
Le portable, mais aussi les heures de colle, les classes différentes à chaque cours. Pour Victoria, ça en fait du changement par rapport à l'école primaire.
Déjà, moi, j'ai pas eu 9 professeurs. Alors que là, je vais en avoir 9, on n'en avait qu'un. À quelle heure on commence le lundi matin, à quelle heure on finit le vendredi?
Mais Amandine du service réussite éducative de la mairie l'assure, cette semaine de pré-rentrée déstresse vraiment les élèves.
Ils vont pas commettre, entre guillemets, les mêmes erreurs du début que les autres, en se trompant, en faisant leur sac, en se trompant de salle.
Cette semaine joue aussi le rôle d'intégration avec des activités sportives et culturelles l'après-midi. De quoi rapprocher les élèves entre eux. Ce groupe de filles aimerait déjà être dans la même classe.
Qui va être avec qui, par exemple moi?
Les classes si définitives fais... ouais, voilà. Ça sera lundi.
Oh,
vous voyez, elles ont déjà hâte d'être à la rentrée.
Si vous aviez prévu de vous mettre au sport cette année, cela pourrait vous coûter cher. Un arrêté publié il y a 15 jours renforce le nombre d'examens, ça vous concerne pas Nicolas,
non, du tout.
À pratiquer pour obtenir un certificat médical préalable à l'inscription en club. Ça vaut notamment pour la pratique de la boxe ou du rugby. Et le problème, Véronique Julia, c'est que ces examens supplémentaires ne seront pas remboursés par la Sécu.
Jusqu'à présent, quand il n'y avait pas de symptômes particuliers, un simple examen suffisait. Mais la loi santé est passée par là et donc depuis 15 jours, le sportif est soumis à des obligations. Nouvelle. Pour la pratique du rugby après 40 ans par exemple, il faudra subir une IRM cervicale tous les 2 ans, mais aussi un électrocardiogramme, une échocardiographie, un test d'effort et un bilan biologique. Certains médecins s'étonnent déjà que ces obligations s'appliquent pour le rugby seulement et pas pour d'autres sports collectifs. L'utilité d'un électrocardiogramme dès 12 ans ne fait pas l'unanimité non plus, mais ce qu'ils dénoncent surtout, c'est le coût de ces examens complémentaires qui peuvent se chiffrer à plusieurs centaines d'euros et qui théoriquement ne seront pas pris en charge par l'assurance maladie. Claude Lécher préside le syndicat de médecins MG France.
On est vraiment sur des prescriptions qui sont coûteuses. Donc il y a des personnes qui sont prêtes à investir l'argent, qui le peuvent, qui le feront. Mais si ce n'est pas le cas, évidemment, il va y avoir des difficultés pour l'accès ou pour l'égal accès au sport pour l'ensemble des pratiquants. Vous allez bien évidemment sélectionner les gens en fonction de leur capacité financière.
Un constat qui va à l'encontre évidemment de la promotion du sport pour tous. Le syndicat national des jeunes médecins généralistes demande que soit revu et corrigé cet arrêté du 15 août. Le syndicat de médecins MG France réclame lui une clarification de la prise en charge financière de ces examens complémentaires.
Ils reviennent de loin, les volleyeurs français passaient tout près de l'élimination. Ils se qualifient finalement pour les barrages de l'Euro. Ce sera demain face à la République tchèque, avec pour le vainqueur une place en quart de finale de la compétition.
Et pour finir, Marc, un retour gagnant cette nuit pour l'ex-banni des cours.
La russe Maria Sharapova, ancienne numéro 1 mondiale de tennis, suspendue pour dopage pendant 15 mois. Elle faisait son retour à l'US Open cette nuit grâce à une invitation de l'organisation. Retour tonitruant, la russe s'est offerte faire de la numéro 2 mondiale, Simona Halep, dès le premier tour, Fabrice Abgral.
Maria Sharapova est entrée sur le central sous les applaudissements d'un public poli. Elle en est sortie en pleurs et victorieuse 2h42 plus tard, sous les applaudissements nourris d'un public reconquis. Finalement, Maria Sharapova a disputé ce premier tour comme si de rien n'était, ou presque, parce qu'en ayant repris la compétition en avril dernier, la Russe aurait très bien pu jouer cette année à Roland-Garros et à Wimbledon, mais les organisateurs de ces deux tournois ne lui ont pas accordé d'invitation pour le tableau final. Les Américains, eux, ont tenu à se démarquer en lui offrant ce fameux sésame. Ce retour en Grand Chelem s'est déroulé sans heurts et sans vagues. Maria Sharapova ne veut plus désormais évoquer sa suspension de 15 mois pour dopage et les autres joueuses ne souhaitent plus en parler non plus. Caroline Garcia, Océane Dodin et Alizé Cornet.
Enfin, elle a eu sa sanction, elle a attendu, maintenant elle est de retour. Voilà, on va pas non plus en reparler pendant des mois.
Pour moi, elle a purgé sa peine, comme on dit. Pour moi, je suis contente de la voir revenir. Mais moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Hein.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Honnêtement, ça me passe complètement au-dessus de la tête, si vous saviez à quel point.
Maria Sharapova pointe à la 146e place mondiale. Elle va maintenant s'appliquer à remonter au classement pour intégrer les tournois sans invitation et ainsi éviter toute polémique. New York, Fabrice Abgral, France Inter.
Côté français, ça passe cette nuit pour Mahut, Pouille, Père et Tsonga, et chez les femmes pour Garcia et Cornet. Et puis toujours à New York, le maire de la ville relance la chasse aux fumeurs. Ça ne plaisante pas, il va faire passer le prix du paquet de cigarettes à 13 $, soit près de 11 € le paquet. À côté de ça, la France, et ses 7 € le paquet de cigarettes ferait presque partie de figure de paradis pour les fumeurs. Presque, hein, quand même, à 7 €. Marc, merci. C'était le journal de Marc Fauvel.